points. Et je voudrais me référer, donc, en première partie, à l'étude que nous avons eue la semaine dernière. En deuxième partie, nous étudierons dans le début de la paracha de Lech Lecha, un problème qui est en controverse chez les commentateurs. Il s'agit de... Installez-vous, merci. Et il s'agit de comprendre quelle était la portée et l'objectif de la première révélation que Abraham a reçue. Est-ce qu'il se trouvait encore à Ur Kasdim ou est-ce qu'il se trouvait déjà à Haran? Je reprendrai donc dans la deuxième partie du cours ces éléments. Écoutez, ne restez pas debout. Suite, et je vous prie de faire du silence parce que j'ai vraiment la voix... Je sais bien que vous n'avez pas parlé, mais les bruits de chaises, ça... j'ai la voix prise. Alors, je vais aborder tout de suite le premier thème. La semaine dernière, nous avons étudié un passage important du récit que la Torah nous donne de la période de temps qui va depuis le déluge jusque à la naissance d'Abraham. Il y a 10 générations de l'histoire de l'humanité qui sont la deuxième partie de la première tentative de la civilisation humaine depuis le premier homme jusqu'à Abraham qui a duré à peu près 2000 ans. Je me souviens bien très exactement en quelle année du calendrier Goy l'État juif
1948.
Alors, il y a 1948 ans, mais c'est une coïncidence, de Adam Arishon jusqu'à la naissance d'Abraham, pas jusqu'à la proclamation de l'État d'Israël. Et à peu près 2000 ans, que suivant la définition qui nous est donnée par la Torah Shebaalpé, cette première partie de l'histoire de l'humanité, qui en principe est dans un cadre de 6000 ans, puis le 7e, c'est 2000 ans de chaos. Et ensuite 2000 ans de Torah, 2000 ans de révélation, qui vont depuis Abraham jusqu'à Ezra, c'est-à-dire depuis le commencement de la résurgence de l'identité hébraïque jusqu'à la fondation du judaïsme à la fin de la prophétie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, écoute, sérieusement, ferme la porte, écoute, plus personne ne rentre, on ne peut pas étudier comme ça. Demande à Yonid de l'effet. D'autant plus que c'est interdit par la halakha. On ne rentre pas dans un cours de Torah quand ça a commencé. Il s'appelle Eber Minachai. C'est un corps vivant qu'on prend par morceaux. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée en... Alors, les gens se sont habitués à de toutes sortes d'habitudes. Mais enfin, quand même, si on avait la possibilité d'une grande salle, etc., oui, ce serait possible. Alors, faites vraiment un effort et arrivez beaucoup plus tôt. Ne venez pas, tout simplement. Enfin, ne venez pas si vous êtes en retard, bien sûr. Alors, je reviens à ce que je disais. D'ailleurs, ferme la porte. Il y a un cadre historique de l'histoire de l'humanité dans l'appellation Olam Hazeh, pas tellement l'appellation Pshat, ce monde-ci, mais le monde de Adam Arishon qui est appelé Ha-Adam Hazeh. Le Olam Haba, c'est le monde à venir, de l'homme à venir qui est en train d'être engendré à travers l'histoire de ce monde-ci. Alors le Talmud nous donne un cadre de 6000 ans, on peut maintenant en parler puisqu'on est près de la fin des 6000 ans, c'est 1753. Et divisé en trois groupes de temps. D'abord, Alpaïm Tohu, Alpaïm Shana Tohu, 2000 ans de chaos. À travers les différentes strates de signification du chaos, dans tous les sens du terme, il s'agit du chaos de la conscience morale. Il a fallu 2000 ans pour ce que se reconstruise la conscience morale qui va commencer à émerger avec Abraham. Et ça s'appelle les 2000 ans de l'effort du Derech Eretz qui a précédé la Torah. Le Derech Eretz, c'est un terme, vous apprendrez d'autre part dans d'autres études, qui a plusieurs significations, mais pour ce sujet-là, je dirais c'est l'accès à la conscience morale. Selon le Peri Tzadik, c'est l'expression Irat Elohim, c'est Derech Eretz. On peut dire civilisation, culture, mais c'est surtout moralité. La conscience morale préalable, indispensable de l'accès à la sainteté. Et ensuite, pendant 2000 ans, Alpaim Shana Torah, la révélation du projet de sainteté, qui commence avec les premiers prophètes hébreux, les patriarches hébreux, et des prophètes qu'il y a eu aussi avant, j'y reviendrai tout à l'heure, et s'achève au temps de la fin de la prophétie, c'est le temps de Ezra et Néhémie, la fondation du judaïsme comme héritier de l'hébraïsme. L'hébraïsme, c'est le temps des prophètes. Et ensuite, les troisièmes 2000 ans s'appellent Alpaim Shana Yemot HaMashiach, les 2000 ans où auraient pu débuter les temps messianiques. Et il y a ici c'est plein de problèmes, en particulier le fait que le christianisme fait débuter les temps messianiques théoriques, enfin disons, je cherche un terme que je ne trouve pas d'ailleurs. Les temps messianiques, pardon ? Non, pas du tout. Ça, c'est pour nous. Prétendu. Non, j'explique l'idée. Dès la destruction du temple et la fin de la prophétie et le commencement de la grande dispersion, la restauration de la nation hébraïque aurait pu être obtenue et les temps messianiques auraient pu commencer. Et puis finalement, je vous cite là le Maharal, Rovazman, c'est-à-dire le plus beaucoup de temps a passé, et en fin de compte, il faut se résigner que ça se dévoile qu'à la fin des 2000 ans de Yemot HaMashiach. Et effectivement, c'est à la fin des 2000 ans de Yemot HaMashiach que le rassemblement des exilés a commencé avec le sionisme et l'État d'Israël. Il y a une convergence dans cette indication de la Gemara, je répète très brièvement, 6000 ans et le 7e millénaire. Rien à voir avec le millénarisme, hein, c'est tout à fait autre chose. Et puis, c'est sur le plan de la semaine hébraïque, 6 jours et le 7e, le plan de l'œuvre du commencement, du Maase Bréchit, 6 jours et le 7e, c'est un plan qui revient très souvent dans la structure du temps hébraïque, du temps biblique, et nous sommes à la fin du 6e millénaire. Nous sommes à la veille du Shabbat. Et le RF Shabbat, la veille du Shabbat, a commencé 272 ans avant le 7e millénaire. 272, c'est la valeur numérique de RF Shabbat. Il y a une indication du Zohar qui reprend des versets. C'est la valeur numérique de RF, c'est 272. Si vous enlevez 272 de 6000, vous arrivez à 5728. Si cette date ne vous dit rien, j'ai rien à vous dire. Ceci dit, je reviens au sujet, c'est pas tellement ça que je voudrais approfondir, ça s'approfondit dans énormément de directions. Il y a une question sous-jacente à cette analyse, je vais pas vous laisser avec des cauchemars, s'il y a une programmation aussi datée, et où est le fondement de la liberté ? Ça peut sembler contradictoire avec un des essentiels, des principes essentiels du judaïsme, qu'il y a liberté, et par conséquent, par exemple, ça serait lié au fait que depuis toujours, on a souhaité aujourd'hui de notre temps. Bimera Biyamenu, Baragala Bisman Karim. Et voilà qu'il y a des temps fixés. Vous avez compris un peu la question. Je vous dirai comment le Rav Kook nous a expliqué ça au moment de la guerre des six jours, cette date de la veille de l'année 5728, qui s'appelle, chez les kabbalistes, Shnat Merachefet, Shnat Atashkach. C'est Shnat Merachefet. Je signale en passant pour vous dire que ces références existent. On ne va pas les étudier. Les plus surpris étaient ceux qui savaient. Parce que ceux qui ne savaient pas ont vécu l'événement dans toutes les surprises de l'événement, mais pas dans cette surprise maximale qu'on connaissait la date. Enfin, ceux qui la connaissaient, bien sûr. Et alors, on a posé. C'est d'ailleurs moi qui ai posé la question à vous, au moment de la guerre des six jours. Si ça arrive à une date prévue, où est la liberté ? Je me souviens de la réponse, je l'ai citée parfois. Il a répondu avec le sourire qui a caractérisé les choses profondes quand il répondait dans ses questions. Il a dit, si on te dit qu'une femme est enceinte, ben tu dis d'abord Mazal Tov, et après, si tout se passe bien, tu sais que dans 9 mois, elle a un enfant. Tu es prophète ? Vous avez compris ? C'est-à-dire, il y a une programmation, un conditionnement des structures du temps de l'histoire de l'humanité, et lorsque on se laisse aller au fonctionnement de ces structures, alors elles jouent. On n'a pas mérité avant la date inéluctable après laquelle il y aurait plus eu d'espérance. Alors c'est arrivé le 9e mois. Bon, vous avez compris le... C'est-à-dire, c'est pas parce que je sais que lorsqu'il y a attente, espérance, tikva d'un enfant, ça arrive au bout du 9e mois, eh bien, c'est pas pour ça que c'était pas libre. Il fallait aussi le faire, cet enfant. Il fallait aussi qu'il arrive viable. Il fallait que ça arrive. Et d'ailleurs, ça se relie, je pense à trop de choses à la fois, mais ça se relie à une expression de la Gemara et du Midrash et du Zohar pour désigner le Mashiach. On appelle chez les rabbins Barnafli, le fils des fœtus avortés. Nefel. Comment on appelle ça en français, je ne sais pas. Non, un avorton, non. Un avorton est vivant. Mais le Nefel n'est mort. Ça veut dire... Bon, vous avez compris l'idée, ça suffit. Barnafli. Nun, Pe, avec Yud à la fin. Barnafli. C'est de l'araméen. Nefel, c'est l'hébreu. Alors, ça veut dire qu'il y a eu des occasions qui ont été avortées. Il y avait des temps possibles. On n'a pas obtenu, on n'a pas mérité. Ces temps ont été dévoilés de temps en temps par les maîtres de la tradition. Et puis ça aurait été des occurrences possibles. Il y a toute une histoire à étudier. Des dates qui ont été données, le Messie n'est pas apparu, mais il aurait pu. Et effectivement, il y avait des occurrences objectives qui faisaient que ça aurait pu être le temps du rassemblement des exilés et de la restauration de la nation hébraïque du dedans du peuple juif. Ça a échoué. Par exemple, au moment de l'Inquisition. Si au moment de l'Inquisition, au temps de l'Inquisition, les Juifs espagnols avaient acheté Eretz Israël au lieu d'acheter Amsterdam, la Hollande et le sud de l'Angleterre, eh bien peut-être que ça se serait passé autrement. Il y a eu très peu de Juifs espagnols qui sont allés en Eretz Israël. Ils ont préféré aller fonder New York, qui s'appelait d'abord la New Amsterdam. C'est les Sfaradim d'Amsterdam, descendants des exilés d'Espagne, qui ont fondé New York. Je ne sais pas si vous savez ça. Et tout ça, on le paye, avec garantie. En tout cas, pour revenir au sujet, je referme la parenthèse. La paracha de Noah nous parle de ces 2000 ans de Tohu, et à travers lesquels il y a eu un effort de l'identité humaine d'accéder à la conscience morale qui s'est détruite dans les premières générations de l'humanité, les 7 générations de sursis données à la faute des premiers hommes. On est familier avec la notion de la faute du premier homme, mais à la faute du deuxième homme, du troisième, jusqu'au septième. Je vais pas ouvrir des parenthèses, mais c'est un sujet qu'il faut étudier. On est, polarisé sur la notion de la faute du premier homme. Il faudrait dire la faute des premiers hommes. Et la faute du deuxième homme est beaucoup plus grave encore que celle du premier. La faute du premier homme, qui est la faute contre Dieu, la révolte contre Dieu, Ben Adam Namakom, a trouvé son principe de rédemption au temps des patriarches, et sa rédemption avec le roi David. Le roi David a été le premier roi d'une société humaine qui a restauré la souveraineté divine dans sa royauté sur terre. Et par conséquent, vous comprenez le Midrash qui dit que Adam Harishon a donné 70 ans de sa vie au roi David. Vous connaissez ce Midrash ? C'est que lorsque Dieu a révélé la chaîne des générations à Adam Harishon, il a vu qu'il y avait un roi d'Israël qui n'avait pas de temps pour vivre. Et alors, il lui a donné 70 ans de sa vie. Bon, j'ouvre un peu ce Midrash. Parce que dans le récit de l'histoire de Adam Harishon, le verset dit « Beyom acholcha mimenu mut tamut » « Le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et mal, tu mourras. » Et le Midrash nous dit « Un jour de Dieu, c'est 1000 ans. » Elef shanim be'enecha keyometmol ki yaravo. C'est un verset des psaumes. Et pourtant, on voit que Adam a vécu 930 ans. Alors, où sont passés ces 70 ans? Alors, il y a 2000 rachis, mais un midrash qui dit qu'ils ont été distribués au patriarche et au roi David, et un midrash qui dit les 70 ans ont été donnés au roi David. Ça veut dire que c'est dans le roi David que l'identité du premier homme a réalisé la rédemption de sa faute. C'est clair l'idée? Je l'ai dit en français, mais je vous dis à quel verset ça se réfère. C'est un verset des psaumes du roi David. Rabim omrim le nafshi en yeshuata lo. David se plaint en disant beaucoup disent à propos de ma personne, elle n'aura pas de salut. On le lit en hébreu. Rabim omrim le nafshi et son effet chez celui d'Adam Harishon en yeshuata lo. Un effet d'Adam Harishon ne peut pas être sauvé par David. Vous avez entendu en hébreu? Non. Et alors, effectivement, le roi David a établi le principe du tikkun, j'ai dit rédemption, c'est le mot chrétien, mais enfin, j'en ai pas d'autre en français, la réparation de la faute du premier homme à l'échelle collective. La faute du premier homme a déjà trouvé sa rédemption. Ça, c'est un grand différent que nous avons avec le christianisme. À l'échelle individuelle, il peut arriver que des individus de l'histoire de l'humanité refassent cette faute de la révolte contre Dieu, mais à l'échelle collective, elle a été déjà expiée. Elle a eu son tikkun, sinon vraiment sa kapara. Nous sommes occupés à la rédemption de la faute du deuxième homme, qui est Ben Adam Nahavero, de la faute du meurtre de Abel par Caïn, de la faute du frère contre le frère. Vous voyez ce qui se passe. Le christianisme qui prétend que le judaïsme est une préhistoire du christianisme, c'est lui qui est dans la préhistoire. Il est encore obsédé par la faute du premier homme, bien que le slogan officiel c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toute la religiosité chrétienne, la piété chrétienne est focalisée sur la faute du premier homme. Lisez saint Paul, on n'a pas de temps à perdre, mais enfin si vous le lisez. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pensé à saint Paul. Je ne sais pas ce que les juifs font avec saint Paul. C'est le quartier juif à Paris, là-bas. En tout cas, pour revenir au sujet, alors que dans l'ordre du judaïsme, c'est vraiment « Ve'ahta le'acha kamocha zeklal gadol patora ». Il peut arriver qu'à l'échelle individuelle, on refasse la faute du premier homme. Mais Israël a déjà donné à l'humanité le tikkun de cette faute. Ce qu'il faut arriver à réussir, c'est le tikkun de la faute de Caïn. Et c'est pourquoi nous attendons le fils du roi David, le fils de David, le Ben David. David a été le Mashiach de la faute de Ben Adam Lamakom. Et nous attendons le Ben David qui doit être le Mashiach de la faute de Ben Adam Lahavero. Et comment s'appelle le Ben David? Le premier fils de David s'appelait Salom. Shalom. Hein? L'héritier comme roi. Ça encore le sait. Hein? Je veux dire que dans la lignée messianique, le nom du fils de David, c'est premièrement Shalom, c'est-à-dire l'homme de la paix. Il y a eu des étapes qui ont préparé le temps du roi Salomon, en particulier Joseph, mais on étudie ça d'autre part. Et la Gemara enseigne, le Midrash aussi, que depuis le commencement de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu la guerre, sauf au temps du règne du roi Salomon. Un moment de temps messianique du fils de David, entre guillemets. Vous voyez donc quel est le différent concernant la focalisation du scrupule de la piété. Bien. Alors, je reprends cette notion. Il y a un moment particulier que nous avons étudié un peu en détail la semaine dernière, c'est quand l'humanité qui était une, à partir du recommencement de l'histoire humaine après le déluge, à partir de la famille de Noé, l'humanité qui était une, l'indice que dans la Torah, c'est que l'humanité parlait la même langue et avait les langages particuliers des nations. Il y a eu révolte contre l'unité. La langue une a disparu, sont restés les dialectes particuliers, et ce qu'on appelle la confusion des langues, et donc l'humanité est entrée dans la diaspora humaine. Petite parenthèse dans cette introduction, j'en profite pour reprendre cette notion de diaspora. Selon l'enseignement de la Torah, ce sont les goyim qui sont en diaspora. C'est l'humanité qui est en diaspora. L'humanité est en diaspora de l'éclatement de l'unité humaine. C'est le sens grec du mot diaspora. La diaspora d'Israël est une diaspora seconde quand le peuple 1, Israël, Goy Echad Baaret, petit chidouche qu'on a entendu du Rav Kook, Israël est un peuple 1 que sur sa terre. Goy Echad Baaret. Je ne sais pas si c'est clair. D'ailleurs, c'est simple. Ailleurs, il est dispersé. Et pour revenir en tout cas au sujet, la diaspora d'Israël est une diaspora seconde qui vient se greffer sur la diaspora humaine en vue de l'unification de l'unité de l'homme. La preuve, les Juifs. Les Juifs sont les Hébreux dispersés dans la dispersion humaine. Et vous avez les Judéos, humanité entière. Nous nous sommes dans le cas des Judéos français. Les Judéos français, il y a 70 tribus. Un Judéo alsacien, c'est pas la même chose qu'un Judéo tunisien. Mais tout ça, c'est le Judéo français. C'est une tribu, qui a ces 70 tribus. Mais vous avez les judéos germaniques, vous avez les judéos arabes, vous avez les judéos l'humanité entière. C'est-à-dire, ce peuple d'Israël, à certaines occurrences de son histoire, en relation à l'histoire universelle, éclate, diasporise, diaspore, et va se fixer sur la diaspora humaine. Je cite souvent à ce propos une image de Judas Lévi. Judas Lévi compare Israël au cœur de... Et par conséquent, dans chaque souffrance, il y a deux souffrances. La souffrance du membre et celle du cœur. Je ne sais pas si vous comprenez bien. J'ai utilisé cette image de Judas Lévi de la manière suivante. C'est que Israël fonctionne comme le cœur de l'humanité. Le cœur envoie le sang aux organes et puis ramène le sang au cœur. Et puis purifie le sang et le renvoie aux organes. Et il y a, si vous voulez, une circulation d'âme qui se produit entre Israël et l'humanité. Et comme savent dire les médecins, enfin les biologistes, diastole, systole, vous voyez, l'aller vers les nations, le retour vers Israël, c'est diaspora, sionisme. Et si ça ne fonctionne pas, l'humanité a mal au cœur. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire qu'elle a mal à ses juifs. Parce qu'il faut que ça fonctionne pour que l'humanité respire. Je viens d'entendre de nos amis de Paris qui sont avec nous ce soir qu'on recense là en diaspora qu'il y a une sorte d'asphyxie spirituelle. Ça ne fonctionne pas parce que l'agent juif ne fait pas son travail. Je veux dire que chaque fois que je passe... en diaspora, l'agent juif a du travail et c'est pour ça qu'elle ne m'aime pas. Pour revenir au sujet. La Torah décrit bien cela comme, je dis le terme en hébreu, la Pelaga, la génération de la diaspora humaine, Dora Pelaga. L'unité humaine a éclaté, le résultat de cet éclatement, c'est l'égoïsme. Et retenez, que jusqu'à Abraham, donc notre paracha de cette semaine, il n'y a pas trace d'un projet Israël. L'unité humaine a éclaté en 70 nations de base, et parmi ces 70 nations de base, il n'y a pas Israël. Et nous allons voir que l'identité hébraïque va ressurgir avec Abraham, et c'est à partir d'Abraham qu'une sélection d'identité chez les Hébreux de l'exil de Babel va se faire. D'abord dans l'exil, une partie des Hébreux de l'exil vont rester dans l'exil, c'est les Araméens. Une partie va revenir avec Abraham, Lot qui accompagne Abraham, c'est son neveu, c'est la même famille, c'est les Hébreux de l'exil qui étaient à Babel. Et lui va fonder deux peuplades, rivales d'Israël, Ammon et Moab. D'Abraham, avec Agar l'Égyptienne, va apparaître Ishmaël. Et puis d'Isaac, avec Rebecca, va sortir Ésaü. Et toutes ces lignées-là, qui sont à l'origine de la même famille Abraham, finalement, comment dire, se, s'écartent, non, se séparent et s'instaure en rivalité d'Israël. Il y a les 70 nations et il y a la famille d'Abraham comme source de lignée rivale d'Israël entre les nations et Israël. Remarquez cela, on est surtout familier à Ishmaël et à Esav, à l'islam et à la chrétienté. Il y a les 70 nations, les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre, Israël au milieu. Mais comment ça fonctionne l'ONU? Il y a l'ONU, et puis il y a l'Arabie Saoudite et Rome, et puis il y a Jérusalem. Vous avez remarqué ça? Tout tourne autour de cette recherche d'identité. Et alors, tout le monde sait ça, il n'y a que les juifs qui ne s'en rendent pas compte. Et je crois parce que nous sommes conditionnés pour ne pas nous en rendre compte. Chaque fois que vous étudiez ces sujets-là, vous êtes étonné, autant que moi qui vous les propose, de cet entêtement dans l'entêtement des juifs qui depuis 4000 ans, ça fait 4000 ans, les Hébreux et les Juifs, ça dure, tout recommence et ça continue, et c'est la même chose, et on n'arrive pas à tirer les leçons de l'histoire. Ça marche malgré nous. Je ne sais pas si vous comprenez, je veux dire. Et encore, je parle aux rescapés. Vous êtes là, vous êtes sauvés. Mais vous comprenez quel est le problème dans le vaste univers. Les non-juifs perçoivent la spécificité d'Israël. Et les juifs, ils sont d'ailleurs autant interloqués que nous de s'apercevoir que les juifs n'aperçoivent pas. Sinon, de manière hypertrophiée, grandiloquente, je sais pas comment, aidez-moi à trouver des adjectifs. Je pense au sermon rabbinique qui parle de nous les juifs, le centre de l'univers. Et ça se passe. Imaginez un sermon du rabbin d'Ajaccio. Nous les juifs en Corse, le centre de l'univers. La Corse corsée. Il y a un discours grandiloquent, comme on dit ça en français, hypertrophié. Bon, ce que les juifs font à Ajaccio, il y a Dieu seul le sait. En tout cas, ils ne sont pas du tout en fonction de mission universelle. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et pourtant, à l'échelle collective de la présence d'Israël dans le monde entier perçoit cela. Alors, d'où ma question, comment comprendre que nous soyons conditionnés à ne pas voir ce qui est tellement massif? Vous avez des milliards de consciences, un tout petit peuple, un tout petit pays, et puis focalisant l'obsession de milliards de consciences à travers des milliers d'années. Qui pourrait suggérer une hypothèse d'explication? Comment comprendre que les juifs soient aveugles? Je suis pas anti-juif. Hein, je suis... Je veux dire une explication en bonne part, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est des retombées négatives. Alors il en résulte des conséquences de ce genre. C'est pas ma question. Ma question c'est un état de fait aussi massif. Ça ne peut pas s'expliquer par des données partielles, exactes, mais qui sont partielles. Il y a que les juifs malades qui ont la haine de soi. Les juifs malades, il y a aussi des juifs enrhumés, il y a des juifs athées, Mais il y a dans l'histoire juive une sorte d'aveuglement, d'autant plus significatif que le discours officiel dit le contraire. Je ne sais pas, j'ai toujours été saisi par cela. Vous avez un discours, nous sommes le peuple des prêtres de l'humanité. Bon, et comment ça fonctionne? Choum d'avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un discours grandiloquent et dans la réalité, de quoi il s'agit? Par exemple, si je prends le cas de la France, c'est ce que je dis aux élèves du Maroc Meir, eh bien, c'est les curés qui s'occupent d'éduquer les Français, c'est pas les rabbins. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Bon, je sais bien que les catholiques ouvrent le poste pour écouter José Eisenberg, c'est plus intéressant, mais c'est tout simplement parce que c'est plus intéressant. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et mais pas de réponse. Eh bien, je crois qu'on peut l'expliquer de la manière suivante. C'est pour nous protéger du vertige. Si on avait la conscience lucide de ce qu'est Israël en réalité, ça donnerait le vertige. Et on risquerait d'y croire. Et ça rend fou.
C'est les canalistes.
C'est les canalistes. Non, c'est les gens qui se prennent pour bon Dieu. c'est arrivé à un certain nombre de juifs, dont un célèbre qui a un milliard d'adeptes. Okay. si vous voulez, la maladie qui guette les juifs, c'est de se prendre pour le Christ. C'est-à-dire de se prendre pour Dieu. Dieu nous a dit, tu es mon fils. Et alors imaginez, je suis son fils. Vous avez compris? Vous voulez commencer là-dedans, c'est pas la peine, c'est clair. Ça veut dire, ce qui sauve Israël, c'est son humour. Si on n'était pas capable d'humour, on deviendrait fou. Parce que c'est vrai ce que Dieu a dit de nous. Bon, voilà, qu'est-ce qui est arrivé au modèle Christ, disons, et Dieu sait qu'il y en a, à Jérusalem, les asiles en sont pleins. Des juifs qui vous disent, c'est moi. Et d'où tu sais? Ben, Dieu m'a dit. Mais et c'est vrai qu'il nous a dit. Lisez la Bible. Il ne lui a pas dit à lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu s'adresse à une collectivité, le peuple d'Israël. Quand un individu prétend incarner le peuple, il arrive le phénomène vertige. Vous avez compris le problème? Et c'est ça qui arrive dans tous les risques de faux messianisme, où les adeptes prennent le guide spirituel pour un individu qui incarne la collectivité. J'ai dit ça avec précaution. Ne pensez à personne. Il faut penser au problème. Et je crois très sincèrement qu'il s'agit d'une maladie mentale. Enfin, c'est pas je crois, j'ai étudié ça avec le professeur Baruch. C'est une maladie mentale. C'est quand un individu cumule sur lui les caractères d'une collectivité. Ça s'appelle le mythe. Alors il y a un support au mythe, mais le mythe, c'est un mythe. Et comme vous savez, nous sommes anti-semites. Je reviens au sujet. C'est clair ce que je dis, okay. Vous savez, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Comment les rabbins disent la même chose que les énormités que disent les curés. Et vous verrez la différence. Par exemple, Judas Lévi parle de l'identité divine d'Israël. Le Einyan Eloki. Je dis ça pour ceux qui connaissent l'hébreu et qui comprennent ces moussakim. Okay. Dieu a confié un projet divin à l'identité d'Israël. Le Einyan Eloki. Mais ça concerne la collectivité. Donc ça ne concerne pas tel ou tel individu, quelle que soit sa valeur, en tant qu'individu. Vous voyez le basculement dans le paganisme, dans l'idolâtrie. Okay. Lorsqu'on dit en hébreu, et je remercie à celui qui a dit les kabbalistes, mais ça c'est l'échec de la mystique, c'est de la pseudo-mystique. Okay. Je vous dirais, les maîtres des kabbalistes sont les seuls maîtres de la vérité absolue qui ne sont pas tombés dans les dangers de la mystique. Le christianisme est mystique dans ce sens-là. La mystique, c'est une sorte d'effacement de la frontière entre le divin et l'humain. L'expérience mystique, c'est une expérience de consubstantialité entre l'homme et Dieu. Et il y a des kabbalistes mystiques, mais ils ne parlent jamais de leurs expériences. Les historiens, par oui dire, savent citer des noms. Par exemple, Abou Lafia. Mais personne ne sait comment ça se passait chez Abou Lafia. Et puis Abou Lafia, il jeûnait le jour de Kippour, pas le Mardi Gras. En tout cas, pour revenir au sujet, vous avez compris, ce terme de divin a un tout autre sens. Lorsqu'un chrétien dit que Jésus est divin, il veut dire que son essence, sa substance, participe de celle de Dieu. Tandis que lorsque Judas Lévi dit qu'Israël, c'est le Einyan Eloki, et Eloki ça veut dire divin, et il l'explique d'ailleurs pour Moïse, et c'est au niveau créature. C'est la créature telle que l'œuvre divine a voulu qu'elle soit. C'est une œuvre divine parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et non pas parce que c'est une œuvre d'essence divine. Est-ce que vous avez bien compris la différence? Bien que je parle français, et que le français ne voit pas la différence. Voilà un exemple. Je vous donne un autre exemple qui va peut-être vous donner à réfléchir. Je l'ai cité parfois quand on a étudié le problème des dangers de l'exil. Les chrétiens disent, à leur manière, que les juifs tuent Dieu. C'est tellement énorme. Déicide. Hein? C'est tellement énorme, même pour un chrétien, qu'ils disent tout de suite, c'est un mystère. Nous savons par mystère, par tradition et mystère, que les juifs sont déicides. Et aujourd'hui, c'est mal porté, alors ils essayent d'aménager ça intellectuellement. J'ai entendu un pasteur protestant français, le pasteur Dubois, pas le père Dubois. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Vous connaissez le pasteur Dubois à Paris? Pas le père Dubois, le père Dubois c'est un catholique. Le pasteur Dubois c'est un protestant. Alors il avait fait une fois une conférence extrêmement dangereuse. Il disait, bien sûr, c'est absurde de dire qu'on tue Dieu. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire cette accusation de Dieu ici? Ben, ça veut dire que les juifs tuent l'idée de Dieu. Vous voyez, ça devient philosophique, protestant, ça devient intelligible intellectuellement, c'est plus barbare, primitif, honteux, religion d'Australopithèque, des cannibales catholiques, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Mais parce que c'est pas faux. Le nombre de juifs qui passent leur temps à essayer de tuer l'idée de Dieu est colossal dans la civilisation occidentale. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Le chrétien a tendance, mystiquement, à se relier à la présence juive comme une présence théophore. Théophore, ça veut dire porteur de Dieu. Et comme théophile, c'est celui qui aime Dieu. Bon. Et alors, le chrétien, enfin le goy, le gentil, le non-juif, s'approche du juif mystérieusement. Il sait que mystérieusement, il porte Dieu. Il dit, parle-moi de ton Dieu, c'est mon Dieu. Et alors vous avez le professeur israélite qui dit, moi, mais monsieur, je suis athée. Imaginez la fureur du goy, frustré, la frustration absolue. Bon, alors, vous voyez à quel point ces idées-là sont dangereuses, mais sur quoi ça s'accroche. J'ai d'excellents amis juifs qui sont complètement athées, enfin c'est ce qu'ils disent, quoi. Je crois très profondément que tant qu'un juif est juif, sa manière d'être athée, c'est une manière religieuse d'être athée. Ça n'a rien à voir avec l'athéisme.
Grâce à Dieu,
je suis athée. Par exemple. Alors, ça, c'est un peu sous forme de pourrim. Je dirais comment j'ai l'habitude de le formuler. Un goy ne croit pas que Dieu existe. Nikuda. Un juif croit que Dieu n'existe pas. C'est très différent. Et c'est pour ça qu'on le met en croix, parce qu'il croit. En tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez, je vous donnais une anecdote. J'ai eu les premières équipes en sortant de la guerre de la jeunesse juive et des équipes vraiment pluralistes. J'avais un excellent ami, c'est Richard Maestras, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, l'intellectuel athée juif de langue française. Polonais d'origine, mais enfin un aristocrate de la pensée, et on faisait partie de la même équipe de mouvement de jeunesse. Et alors, chaque fois qu'on était dans un colloque ensemble, il commençait par dire moi je peux pas m'opposer à ce que dit Manitou, mais j'y crois pas, moi je suis athée. Alors un jour je lui ai répondu c'est pas grave que tu crois pas en Dieu, l'essentiel c'est que lui croit en toi. Et je pense que c'est vrai. Il y a un phénomène particulier avec Israël, c'est qu'un jour Dieu a décidé de nous dire qu'il croit en nous. Par conséquent, parler d'un juif qui croit ou qui ne croit pas en Dieu, ça n'a aucun sens. Le vrai problème, c'est la peste. Bon, en tout cas, pour revenir à notre sujet, les goyim le savent, puisqu'ils le disent, puisqu'ils y croient, puisque je parle de cela. Je vous conseille de lire le dernier numéro de Jérusalem Post en français. Il y a une excellente étude sur les attaques des églises arabes en Israël depuis qu'ils entendent dire que le Vatican peut-être va faire la paix avec les Juifs. Il faut savoir ça. Et je voudrais terminer sur ce sujet. Il m'arrive d'être, comme vous savez, dans des colloques ecclésiastiques Et un jour, j'ai eu à intervenir et à dire, en m'adressant aux chrétiens, vous dites que vous croyez que Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. C'est faux, c'est pas en ça que vous croyez. Vous croyez que Dieu s'est fait juif pour sauver l'humanité. Alors dites-le comme ça. Mais c'est tellement énorme, ça, que les juifs ne peuvent pas se rendre compte de quoi il s'agit. Parce que si on se prenait au sérieux, eh bien, on serait à l'asile. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et d'autant plus que c'est sérieux. Il y a un phénomène historique d'une massivité colossale, la Bible, qui dit cela d'Israël, mais à l'échelle collective. Pas du tout à l'échelle de l'individu. Lorsque l'individu se met à la place de la collectivité, c'est le mythe. Et j'ai eu une fois à étudier, c'était au centre Rashi, dans un séminaire, la différence entre le mythe et le midrash. Je vous parle de ça, je sais qu'il y a des universitaires, même croyants et pratiquants, qui manient le midrash comme si c'était des mythes. Et en France, vous en avez qui ne se cachent pas de dire le mythe, en parlant du midrash. Okay, je veux dire, une des grandes différences entre le midrash et le mythe. Lorsque le mythe parle d'un personnage d'exception, il accumule sur une figure devenue mythique à force de contamination littéraire tous les éléments qui caractérisent une collectivité. Et si vous avez du temps à perdre pour lire les évangiles, vous apercevrez que le texte des évangiles raconte du personnage principal tout ce qui est arrivé à tous les personnages de l'histoire d'Israël. Les littérateurs appellent ça une contamination littéraire. Okay, c'est accumulé sur un personnage qui devient mythique et qui est une sorte de figuration symbolique qui remplace Israël. Et je crois que c'est, en tout cas en milieu juif, c'est contre ce danger-là que le sionisme nous a immunisés. Parce que le sionisme parle en clair de la nation d'Israël comme nation, du peuple d'Israël comme peuple. Et je crois que nous devons remercier les fondateurs de l'idéologie sioniste, surtout les non-croyants, les chilonim comme ils s'appellent, parce qu'ils nous immunisent contre ce danger de mettre un individu, quelle que soit sa valeur, à la place du peuple, à la place de la nation. C'est la nation qui brille. Et c'est la vie de la Bible. C'est Dieu qui parle à la nation d'Israël. Dieu ne parle pas à l'individu dans la Bible. Il ne s'adresse pas à aucun individu. Nous reconnaissons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux qui ont fondé la nation. Nous ne reconnaissons pas le Dieu de Moïse. Et pourtant, dans n'importe quelle religion, si le judaïsme était de style de n'importe quelle autre religion, on adorerait le Dieu de Moïse. Ça n'existe pas. C'est absolument blasphématoire de parler comme ça dans le judaïsme. On adore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que c'est clair? Moïse, c'est notre maître. Et si vous voulez, le Dieu que nous reconnaissons, c'est pas un fondateur de religion, c'est pas un théologien, c'est pas un professeur de théologie, c'est le créateur des mondes. Rien à voir. Et le créateur des mondes qui, en fin de compte, fait exister une manière d'être créature, l'identité hébraïque qui a traversé l'histoire du monde. C'est de ça que je dois vous parler ce soir, d'ailleurs, à propos de notre thème. Je termine cet exemple pour dire à quel point il faut être très prudent lorsqu'on manie ces discours grandiloquents et d'éviter de ramener le phénomène nation d'Israël à un phénomène de secte, à un phénomène d'église, même qui s'appelle synagogue, à un phénomène de parti, même si c'est un parti religieux, à un phénomène de paroisse, c'est païen. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.